Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Le secrétaire général des Nations Unies déplore l'absence totale d'état de droit en République centrafricaine. Vous entendrez la réaction de l'archevêque de Bangui dès le début de ce magazine. Des millions d'innocents ont été assassinés par des criminels nazis. L'un de ces criminels est mort samedi à l'âge de 99 ans après avoir échappé à la justice. Mais la traque n'est pas finie. Nous verrons qu'elle a même été relancée. Le pape François invite les parents chrétiens à transmettre à leurs enfants les vérités fondamentales de la vie et de l'amour humain, tant par les mots que par les actes. Il recommande la défense de la vie humaine depuis le ventre maternel et le respect des personnes âgées. Une journée nationale de prière pour la paix a été observée ce lundi 12 août en République centrafricaine à l'initiative des responsables religieux du pays. Un pays qui a replongé dans la violence depuis le renversement du président Bozizé par la rébellion Séléka en mars dernier. Le président de la transition, Michel Djotodia, désigné au mois d'avril, devrait prêter serment devant la Cour constitutionnelle le 18 août. Mais la situation humanitaire et sécuritaire est toujours aussi critique et les observateurs sont de plus en plus nombreux à manifester leur inquiétude. Dans un rapport qui doit être examiné mercredi prochain, le secrétaire général de l'ONU recommande au Conseil de sécurité de prendre éventuellement des sanctions contre des éléments de la coalition Séléka responsable d'exactions. Au-delà de Bangui, il n'y a ni système judiciaire, ni police, ni services sociaux, dénonce le secrétaire général adjoint de l'ONU aux droits de l'homme. Une situation dramatique confirmée par Monseigneur Dieudonné Nzapalenga, archevêque de Bangui.
La grande préoccupation humanitaire actuellement, c'est au niveau de la santé. Voilà des mois et des mois, les gens sont dans la forêt. Vous avez des gens qui vivaient avec les ARV. Notre pays est un pays connu où beaucoup de gens subissent avec cette maladie. Et toutes ces personnes sont dans la forêt. Il va falloir que les hôpitaux, les dispensaires puissent se réouvrir. Sinon, les gens qui étaient habitués à se soigner à l'hôpital vont maintenant commencer à se soigner avec des racines. Et la reconversion risque d'être difficile et nous sommes en train de perdre des gens qui se font mordre par des serpents dans la bouche parce qu'à cause de l'insécurité, ils ne peuvent pas venir. Et s'ils viennent à l'hôpital, le médecin parfois peut être là, mais dans l'hôpital, il n'y a pas de médicaments. C'est comme une coquille vide où il n'y a rien. Il y a une deuxième préoccupation que nous portons, c'est celle au niveau scolaire. Vous avez à l'intérieur du pays, dans certains endroits, où les élèves n'ont pas pu aller à l'école. C'est le cas d'une ville comme Damara, de certaines villes aussi, le nord, pour aller à Bambari, où depuis décembre, avec les événements, les gens n'ont pas pu participer à une scolarité normale. Et je crois qu'il est temps aussi de donner la possibilité, en créant des conditions de sécurité, pour que ces enfants puissent revenir, bénéficier de l'éducation. Les enfants qui ne reçoivent pas l'éducation, ce sont des rebelles de demain en puissance. Or, aujourd'hui, si nous leur donnons une éducation, nous leur permettons de comprendre les valeurs de la République, nous leur permettons de comprendre les valeurs humaines, et tôt ou tard, ils pourront se développer pour être un homme, une femme responsable dans ce pays.
Il y a aussi beaucoup de réfugiés étrangers présents en Centrafrique. Ils sont dans une situation encore pire que celle des Centrafricains. Comment vivent-ils, ces étrangers ?
Comme vous le savez, si vous allez du côté de Batalimo, vous avez des réfugiés de Congo démocratique qui étaient venus et qui sont là. Vous allez du côté de Bambari, il y avait des réfugiés soudanais qui avaient fui l'Axe et qui se retrouvent là. Avec les événements, tous ces réfugiés, maintenant, ont l'impression qu'ils étaient abandonnés. Certains réfugiés sont obligés de vendre leurs habits, vendre leurs marmites pour trouver le nécessaire pour manger et pour boire. Quelle catastrophe, quel drame nous avons causé aussi à ces êtres qui méritent de respect et qu'on devait quand même les secourir. Ces gens vivaient avec les ONG, or avec l'insécurité, toutes les organisations sont parties et ces personnes étaient livrées à elles-mêmes. Je pense qu'il est temps de penser aussi à nos frères, les humains, qui sont venus aussi de notre pays et qui sont là et que nous devons les aider. Nous devons venir à leur secours, leur faire des propositions et surtout leur donner l'occasion de voir et de croire qu'ils sont encore des êtres humains, et en leur donnant la possibilité de se soigner, de s'éduquer, de recevoir la nourriture et surtout de vivre. Car actuellement, certains ne font que survivre, pas vivre. Et c'est ça aussi une préoccupation pour nous.
Pourquoi est-ce que le gouvernement Djotodia peine à restaurer l'ordre, à désarmer les ex-combattants? Pourquoi n'y arrive-t-il pas?
La CEDECA est composée de plusieurs groupes. Il s'agit d'une conglomération. Donc chaque groupe a des responsables à la tête. Je l'ai toujours dit, en regardant, en les côtoyant, nous avons plein de chaînes de commandement. Et nous avons l'impression que ces hommes qui se retrouvent dans l'intérieur du pays, eh bien, ces hommes se comportent parfois comme des seigneurs. Ils n'ont pas de compte à rendre à Bangui. Donc, il est temps pour qu'un ordre puisse être donné et qu'il y ait une chaîne de commandement depuis ici, là-bas. Pourquoi est-ce qu'ils n'obéissent pas? Eh bien, ça, c'est le reflet de ce groupe un peu composite où chacun se croit comme le responsable et tout. Et je crois que viendra un moment où il faut faire la part des choses, où bien qu'on se retrouve, qu'ils doivent se retrouver et ils doivent aussi s'unir. Ils doivent dépendre à plein le corps les véritables problèmes de la République centrafricaine, qui est la sécurité, en se disant on doit maintenant arrêter la récréation, donner la sécurité aux gens et tous ces enfants qu'on a ramenés et qui sont désœuvrés et qui ont des armes, qu'on puisse les désarmer et laisser la population vaquer librement ses occupations. La pauvre maman qui ne peut pas aller au champ, c'est une préoccupation pour moi. Et j'en ai rencontré tout le chemin de Damara, des gens qui ont peur pour aller au champ et qui restent à la maison, qui tournent en rond. La famille nous guette bientôt.
L'archevêque de Bangui, interrogé par Thomas Chabol. Une fois n'est pas coutume, le football sera à l'honneur en ce début de semaine au Vatican. Les équipes nationales d'Argentine et d'Italie seront reçues par le Saint-Père ce mardi à la veille du match amical qui les opposera au stade olympique de Rome le 14 août. Un match organisé par les deux fédérations pour rendre hommage au pontificat du pape François, lui-même grand amateur de football. Les footballeurs donneront une conférence de presse mardi à 13h à l'issue de l'audience pontificale. La rencontre avec les journalistes se déroulera au siège de l'Académie pontificale des sciences, où sera lancé à cette occasion un nouveau réseau éducatif global. Ce réseau doit favoriser une société inclusive dans le respect des valeurs universelles, transculturelles et de l'environnement. Le pape François a déjà rencontré à plusieurs reprises des footballeurs, surtout à l'occasion des audiences générales. La ville d'Orlando accueillera du 13 au 17 août l'Assemblée annuelle de la Conférence des supérieures religieuses des États-Unis, la LCWR, qui représente 80% des quelque 57 000 religieuses américaines. La réunion se déroulera en présence du délégué du Saint-Siège, Mgr Peter Sartin. L'archevêque de Seattle a été chargé de l'évaluation doctrinale de la LCWR. Les détails avec Olivier Bonnel.
L'enquête a été effectuée de 2009 à 2012 par la Congrégation pour la doctrine de la foi. La LCWR était soupçonnée de développer des thématiques féministes et trop libérales. Il s'agissait de porter remède aux graves problèmes suscités par certaines de ses prises de position sur des questions ecclésiales, éthiques et sociales, telles que la contraception, l'avortement, l'euthanasie, l'homosexualité ou encore le sacerdoce des femmes. L'enquête apostolique a abouti à un rapport critique demandant une réforme de la LCWR et invitant les religieuses à coopérer pleinement avec les évêques et à obéir au magistère. Les auteurs de l'enquête saluaient le dévouement des religieuses dans les hôpitaux, écoles et institutions caritatives, mais rappelaient que la LCWR devait rester sous la direction du Saint-Siège et ne pas assumer des positions qui seraient en désaccord avec le magistère de l'Église. Plus récemment, le pape François a apporté son soutien aux conclusions de cette enquête. Il y a quelques mois, à Rome, à l'occasion de l'Assemblée plénière de l'Union internationale des supérieurs majeurs, la présidente de la conférence, Sœur Florence Deacon, a reconnu que de graves malentendus subsistaient entre son organisation et le Saint-Siège. Elle a estimé que le pape venu d'Argentine ne connaissait pas le dossier en profondeur. Les religieuses américaines souhaitent un dialogue franc et honnête avec le Vatican, tout en restant fermes sur leurs principes. La question reste donc ouverte.
À Mexico, les catholiques vont célébrer le 15 août le bicentenaire de leur cathédrale. Dans un message, le pape François les exhorte à entretenir l'espérance qui vient de la foi et à renouveler leur engagement missionnaire. Le pape François adresse par ailleurs une pensée spéciale aux jeunes qui sont, écrit-il, une fenêtre ouverte sur la joie et l'enthousiasme. Il faut leur donner le meilleur, à savoir le Christ, un ami qui ne nous abandonne jamais. Les parents en particulier ont le devoir de donner une éducation chrétienne à leurs enfants en comptant non seulement sur leurs propres énergies, mais aussi sur le soutien de la prière. La transmission et l'éducation à la foi chrétienne au sein des familles est également au cœur du message du pape François à l'occasion de la Semaine de la Famille qui se tient du 11 au 17 août au Brésil à l'initiative de la conférence épiscopale. Le Saint-Père demande que la vie humaine soit toujours défendue depuis le ventre maternel et il fait de nouveau appel à la solidarité intergénérationnelle en demandant qu'on prenne soin des personnes âgées, en particulier des grands-parents. Cela est d'autant plus vrai dans la culture du gaspillage qui relativise la valeur de la vie humaine. Le criminel de guerre nazi présumé le plus recherché au monde, le Hongrois Laszlo Csatari, est décédé samedi, à l'âge de 99 ans, dans un hôpital de Budapest. Assigné à résidence dans l'attente de son procès, il a ainsi échappé à la justice qui le poursuivait pour crimes contre l'humanité, notamment la déportation vers les camps d'extermination nazis de quelque 15 000 juifs détenus dans un ghetto en Slovaquie. Pendant ce temps, l'Allemagne a relancé la traque aux derniers criminels nazis. Une campagne d'affichage baptisée « Opération Dernière Chance » a été lancée dans le pays pour tenter de retrouver les derniers tortionnaires nazis encore en vie. Cette campagne est à l'initiative du Centre Simon Wiesenthal qui établit chaque année une liste des anciens bourreaux du Troisième Reich. Selon l'historien Ephraim Zuroff, directeur de ce centre, une soixantaine de personnes pourraient être poursuivies. Écoutez l'éclairage de Tal Brutman, historien et chercheur spécialiste de la Shoah.
On n'a pas vraiment de chiffres officiels et ensuite tout dépend de ce qu'on entend par criminel nazi. Tout dépend de jusqu'à quel point on recherche les gens qui ont participé aux crimes contre l'humanité qui ont été commis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est sans doute plusieurs milliers de personnes qui sont toujours en vie, qui ont participé à un degré ou un autre aux opérations d'assassinat. Mais en termes de chiffres officiels, on n'a aucune estimation véritable qui existe.
Donc il y a bien des degrés de gravité dans ce qu'on appelle la criminalité nazie.
Alors si on regarde depuis les poursuites qui ont été engagées depuis la fin de la guerre et même pendant que la guerre avait encore cours, puisque les premiers procès qui ont été engagés par les soviétiques ont eu lieu à la fin de l'année 43, on a d'abord les grands procès contre les criminels, le plus connu étant celui de Nuremberg, où on a les dignitaires de l'État nazi qui ont été jugés. Puis ensuite, dès Nuremberg, on a ce qu'on appelle les procès successeurs qui s'intéressent aux médecins, aux responsables des Einsatzgruppen, etc. Donc on a différents niveaux hiérarchiques depuis les décisionnaires politiques, les membres du gouvernement du Troisième Reich, jusqu'aux tueurs sur le terrain, puisqu'on a eu les procès par exemple d'Auschwitz ou d'autres centres de mise à mort, qui ont été organisés au cours des années, à la fin des années 40, 50, 60 et même 70 en Allemagne. Et puis autour de ça, on a ces différents rangs hiérarchiques depuis les décideurs politiques en passant par les donneurs d'ordre de l'armée ou de la police allemande jusqu'aux tueurs. On a aussi tout ce qui se greffe par-dessus et qui sont les poursuites contre les collaborateurs du Troisième Reich, aussi bien dans des pays comme en Belgique, en France ou dans d'autres États alliés du Troisième Reich où des épurations ont été plus ou moins menées. Donc on a tout un ensemble de criminels qui s'articulent autour de la Shoah ou même d'autres crimes qui ont été commis pendant la guerre et tout dépend de quel rang hiérarchique on parle. Ceux qui sont concernés aujourd'hui ne sont pas des grandes figures qui sont connues par le grand public, mais plutôt des criminels qui ont opéré directement sur le terrain.
Cette campagne d'affichage est faite à l'initiative du Centre Simon Wiesenthal, qui était lui-même l'un des plus grands, on va dire, chasseurs de nazis. Ma question là est très simple. Est-ce que continuer à traquer les criminels nazis, est-ce que c'est fondé? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça ne s'apparente pas à de l'acharnement au vu de l'âge de ces présumés criminels?
D'un strict point de vue juridique, le crime contre l'humanité, il n'y a pas de prescription, il est réputé imprescriptible. Donc du point de vue juridique, ça ne pose aucun problème. Si on se place du point de vue de l'opinion publique a de tout temps réclamé que la justice soit menée contre les criminels de guerre. Donc d'une certaine façon, c'est pas totalement absurde de s'inscrire dans cette logique-là. Et d'autre part, le sentiment Wiesenthal, comme vous l'avez rappelé, a été créé par Simon Wiesenthal, qui était l'un des principaux, sinon le principal chasseur de nazis depuis la fin des années 40. Donc ils sont dans leur mission historique, celle d'identifier les gens qui ont participé à ces crimes de masse. Après, on est vraiment là, à mon sens, dans l'ordre du symbolique plus qu'autre chose. C'est, à mon avis, c'est plus une façon de dire il y a encore des gens qui sont impunis et il appartient de les identifier avant qu'ils ne meurent pour rappeler qu'ils ne sont pas innocents.
Des propos recueillis par Manuela Affigi. En France, le recteur de la Grande Mosquée de Lyon, Kamel Kaptan, a estimé ce lundi que le projet d'attentat d'un militaire contre une mosquée de Vénissieux témoignait d'un climat d'islamophobie. Il a annoncé un rassemblement devant le lieu de culte pour manifester la solidarité et l'inquiétude des musulmans. Dimanche, le ministère de l'Intérieur avait annoncé qu'un jeune militaire proche des idées de l'extrême droite radicale avait été arrêté près de Lyon pour un projet d'attaque contre une mosquée. Dimanche toujours à l'Angélus, le pape François a une nouvelle fois adressé un salut chaleureux aux musulmans pour la fin du Ramadan. Dans un message, il y a une dizaine de jours, il avait exhorté les chrétiens et les musulmans à promouvoir le respect réciproque, en particulier à travers l'éducation des nouvelles générations. Et à propos du dialogue islamo-chrétien dans le cadre de nos rediffusions estivales, je vous propose de réécouter un entretien avec l'évêque de Constantine en Algérie. Monseigneur Paul Desfarges a participé au mois d'octobre dernier à Rome au synode des évêques sur la nouvelle évangélisation. Dans cet entretien, il décrit son expérience de vie en terre algérienne, ses rencontres sur place témoignant de la fraternité universelle. Le jésuite reconnaît toutefois que le dialogue islamo-chrétien est aujourd'hui à rude épreuve à cause des courants fondamentalistes. Monseigneur Desfarges mentionne également la question des conversions de fidèles d'origine musulmane, une situation nouvelle faite de joie et de souffrance.
D'une certaine manière, il n'y a pas de vrai dialogue interreligieux s'il n'y a pas d'abord, au préalable, un vrai dialogue de vie. Et c'est la grâce, je crois, qui nous est faite en Algérie, c'est de pouvoir vivre ce dialogue de vie. Nous aimons nous appeler une église de la rencontre. Dans la rencontre de l'autre, une bonne nouvelle est déjà annoncée. Donc il y a un déjà là d'une fraternité universelle en marche, et c'est une bonne nouvelle. Et c'est déjà une annonce de l'Évangile.
Ce dialogue de vie entre chrétiens et musulmans, comment se passe-t-il? Il n'est pas toujours facile, il n'a pas toujours été facile.
Il est au quotidien, dans les rencontres de voisinage, de travail. Il est bon, il est même très bon. Il nous est donné de vivre des relations d'amitié qui peuvent aller très loin dans la rencontre de l'autre jusque dans sa vie spirituelle. Alors ce que je disais aussi, c'est que le dialogue interreligieux est à l'épreuve. Il y a les groupes fondamentalistes qui ne nous aiment pas beaucoup, mais que nous devons continuer à aimer, comme le disaient les frères Tibarine. Mais aussi parce que depuis quelques années, grâce nous est faite d'accueillir des personnes qui, après un chemin personnel, intérieur, un songe, une émission, un film, désirent rencontrer le Christ. Et donc nous-mêmes les accueillons après un discernement exigeant. Et lorsqu'ils deviennent disciples de Jésus, ce n'est pas facile. Souvent, même si peu de personnes dans leur entourage sont dans la confidence, ils peuvent être rejetés, en tous les cas obligés à une très grande discrétion. Et donc pour eux, c'est quoi le dialogue interreligieux, hein? Donc à ce moment-là, oui, il y a une épreuve. Mais ce n'est pas sans espérance, même si le chemin est rude et parfois douloureux.
Comment l'Église parvient-elle aujourd'hui en Algérie à gérer donc cette question très délicate des conversions?
Nous avons la chance que la Constitution reconnaît la liberté de conscience. Donc une personne n'est pas inquiétée parce qu'elle est chrétienne. Il y a une loi sur le prosélytisme qui fait que certains chrétiens ou chrétiennes ont pu avoir quelques ennuis. En général, ça finit par s'arranger. Non, ce qui nous est un peu difficile en ce moment, c'est ce que nous appelons la question des visas. C'est vrai que les autorités sont plus regardantes pour nous donner des visas, en particulier pour les prêtres et les religieuses, probablement pour mieux contrôler, peut-être limiter la place de notre Église. Même s'ils nous disent que ce n'est pas l'Église catholique, ils regardent davantage du côté des évangéliques, plus prosélytes. Hein. Mais quand même, voilà, on a de temps en temps des problèmes de visa, mais là encore, des choses peuvent s'arranger. Moi-même, j'ai des relations avec quelques responsables religieux de l'islam. On peut se parler avec franchise et avec dans la confiance. Donc voilà, c'est difficile, mais on peut continuer à faire confiance. Puis je crois qu'on est dans un moment où cette liberté de conscience fait son chemin. Et je crois qu'il faut faire confiance au spirituel de l'islam.
Réalisé par Hélène Destombes, l'entretien que vous venez d'entendre était une rediffusion. C'est la fin de cette émission, mais je vous invite à nous retrouver également sur Internet à l'adresse www.radiovaticana.va ainsi que sur Facebook à Radio Vatican en français. Merci de nous avoir suivis.